8 milliards de voisins.
Du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.
Et demi à Paris, une heure de moins en temps universel. Merci d'écouter RFI. C'est l'heure du journal. Bonjour Xavier Besson.
Bonjour Andréane, bonjour à tous. À la une ce matin, Goma et le gouvernement congolais qui parlent désormais de 2000 morts, conséquence des combats qui ont permis au groupe armé M23, soutenu par le Rwanda, de prendre le contrôle la semaine dernière de la majorité de la ville. Goma, où l'urgence est désormais d'enterrer ses victimes. Vous entendrez dans un instant la chef du bureau de la Croix-Rouge au Nord Kivu, alors qu'un sommet international conjoint des pays des communautés d'Afrique de l'Est et d'Afrique australe est annoncé pour ce week-end en Tanzanie. Le président rwandais prévoit d'y participer. Dans ce journal également, reportage à N'Djamena au Tchad avec les anciens employés des bases militaires françaises, désormais au chômage et inquiets pour leur avenir. Le président américain qui se mêle des affaires sud-africaines, et c'est la récente loi sur les expropriations qui est désormais dans le viseur de Donald Trump. Enfin, nous serons à Madagascar où les prix des carburants ne sont désormais plus fixés par les autorités d'Antananarivo. L'heure est donc au décompte des victimes et aux inhumations à Goma, la grande ville de l'Est de la RDC, désormais en grande partie sous le contrôle du M23. Et où le gouvernement congolais évoque désormais 2000 corps à enterrer. Et la coordination humanitaire des Nations Unies compte de son côté au moins 900 morts. Et il faut désormais faire vite en raison des risques sanitaires, notamment pour le personnel et les patients des hôpitaux où sont entreposés les dépouilles mortelles. Hier donc, au moins une centaine de victimes ont pu être inhumées. Dans quelles conditions ? Écoutez Myriam Favier, la chef du bureau du comité international de la Croix-Rouge au Nord Kivu.
C'est effectivement une logistique assez lourde. Maintenant, le CICR travaille avec la Croix-Rouge nationale à la collecte des dépouilles mortelles, mais travaille aussi avec d'autres partenaires, dont la protection civile ou l'Organisation mondiale de la santé, pour essayer de donner un enterrement digne, le plus digne possible à toutes les personnes qui sont mortes dans les affrontements. Et donc, on fait ce qu'on peut. C'est effectivement une course contre la montre. Voilà, les moyens sont mis à disposition. Bon, le principal challenge, c'était effectivement la capacité limitée des morgues. Ont été directement impactés par le fait que certaines lignes électriques ont été coupées et donc leur approvisionnement en réfrigération était touché. Bien sûr, il y a aussi le fait que les terrains à Goma où l'on peut enterrer des corps sont extrêmement limités. Donc ça a été une course contre la montre de trouver des terrains, mais également ça reste une course contre la montre puisque l'identification des corps est de plus en plus difficile puisque chaque jour qui passe nous rend la tâche plus difficile.
Myriam Favier, la chef du bureau du comité international de la Croix-Rouge au Nord Kivu. Alors qu'au niveau militaire, hier, l'AFC, l'Alliance Fleuve Congo, alliance à laquelle le M23 appartient, l'AFC annonce une trêve à partir d'aujourd'hui dans les combats pour des raisons humanitaires. Réaction des autorités congolaises à Kinshasa. Le porte-parole du gouvernement dit être familier de ce genre de communiqué, la plupart du temps mensonger, assure Patrick Mouyaya. Et sur le plan diplomatique, on apprend qu'une résolution est en cours de préparation au Conseil de sécurité des Nations Unies pour demander un cessez-le-feu permanent et exiger le retrait du M23 et des troupes rwandaises du sol congolais. Vous entendrez dans le prochain journal sur RFI dans une demi-heure l'ambassadeur chinois auprès de l'ONU affirmer que l'intégrité du territoire congolais doit être respectée. Autant de sujets qui seront discutés vendredi au niveau des ministres et surtout samedi. Au niveau des chefs d'État, le Kenya annonce un sommet conjoint des pays de l'EAC, la communauté d'Afrique de l'Est et de la SADC, la communauté d'Afrique australe. Esdras Ndikumana.
Le fait que ce sommet soit organisé aussi rapidement est positif en soi, estime l'analyste pour la région des Grands Lacs de International Crisis Group, Onesforce Matumba, car, dit-il, c'est une course contre la montre qui est engagée au vu de l'escalade verbale et militaire. L'objectif, tenter de renouer avec la diplomatie et parvenir à stopper la spirale des affrontements dans l'est de la RDC, a-t-il expliqué. Il va falloir pour cela que les deux organisations, dont Kinshasa et membres, accordent leur violon. D'un côté, l'EAC qui pond des négociations directes entre le gouvernement congolais et le M23. Félix Tshisekedi, qui s'en méfie, a congédié sa force d'interposition et l'a remplacée par celle de la SADC, une organisation qui s'est alignée lors de son dernier sommet sur les positions de Kinshasa et a demandé le retrait du Rwanda de la RDC. Il ne faut pas avoir trop d'attentes, prévient l'analyste. Ce serait déjà un succès diplomatique en soi si le sommet arrive à se tenir avec tous les participants annoncés, a-t-il poursuivi. Selon une source proche de la présidence de la RDC, les modalités de participation de Félix Tshisekedi ne sont pas encore définies. En présentiel ou en distanciel, toutes les options restent ouvertes. On a déjà tranché côté rwandais, où le ministre des Affaires étrangères a confirmé à RFI la participation de Paul Kagame au sommet de Dar es Salaam samedi.
Esdras Ndikoumana, situation dans l'Est congolais, également au cœur de la rencontre hier à Kinshasa, entre le président congolais Félix Tshisekedi et des représentants des deux principales églises de RDC, les catholiques et les protestants à Kinshasa, Pauline Azidi.
L'entretien a duré un peu plus d'une heure au palais de l'OUA sur les hauteurs de Kinshasa. C'est une délégation conjointe de la Conférence épiscopale nationale du Congo, la CENCO, et de l'Église du Christ du Congo, le CC, qui a rencontré le président Félix Tshisekedi. La situation de l'Est était bien évidemment au cœur de ce rendez-vous. Nous sommes troublés comme pasteurs par la situation que vivent actuellement nos frères et sœurs à l'Est du pays, a déclaré le cardinal Ambongo. Nous n'arrivons pas à comprendre ce que ces gens ont fait pour mériter un traitement aussi indigne qui dure depuis trois décennies. Les deux églises ont présenté au chef de l'État leur projet de sortie de crise, baptisé Pacte social pour la paix, un projet dévoilé le mois dernier et qui, selon elle, doit répondre à la nécessité de renforcer la cohésion nationale. Le président l'a reçu avec beaucoup d'attention et nous a encouragé à confirmer à la sortie de l'entretien Mgr Donatien Tcholé, le porte-parole de la CENCO. Il faut créer un consensus sur les défis qui pèsent sur le destin de notre pays, a enfin conclu Eric Senga, représentant de l'ECC. Pauline Azidi, Kinshasa, RFI.
Et Kinshasa, où une opération de journée ville morte est prévue aujourd'hui en soutien aux soldats congolais et aux habitants de l'Est de la RDC. Hier, le ministre de l'Intérieur a mis en garde contre tout débordement et a rappelé que toutes les manifestations étaient interdites jusqu'à nouvel ordre.
RFI.
RFI, 7h37 à N'Djamena au Tchad, où les anciens employés des bases militaires françaises s'inquiètent pour leur avenir. La semaine dernière, les soldats français ont définitivement quitté le sol tchadien après la rupture des accords de défense entre les deux pays au mois de novembre. Et ce sont environ 400 Tchadiens qui étaient employés sur les bases de Fayad, Béché et Dadjikossé à N'Djamena. Hier, ils ont tenu une assemblée générale pour demander à être accompagnés dans leur nouvelle vie. Correspondance d'Olivier Monodji.
Ils assurent avoir travaillé des dizaines d'années au service sanitaire, de maintenance et autres des bases françaises de Faya, à Béché et à Dikossé. Ils attendent désormais des mesures d'accompagnement. François Narom Dongarty, père de 11 enfants, a travaillé comme lavandier pendant 37 ans.
On m'a donné que 4 millions quelques. Et voilà, je ne suis pas satisfait. Ils disent que ce n'est pas de leur faute parce que c'est notre gouvernement qui les a renvoyés. Et de deux, ils disent qu'ils n'ont pas encore le budget exact pour nous payer.
Certains ex-employés ont reçu 5 mois de salaire comme mesure d'accompagnement, en plus des droits sociaux. D'autres n'ont rien eu. C'est le cas d'Étienne Dumodoum au service eau et environnement.
J'ai des ras-le-bol en fait parce qu'on nous a écarté et on n'a pas reçu les 7 mois comme l'aide avait reçu.
Baitouban Bruno, secrétaire général de la cellule syndicale des travailleurs de l'Economa, plaide pour l'intervention des autorités tchadiennes.
C'est difficile pour nous. Nous voulons un accompagnement financier déjà pour faire face à nos charges. Et dans un deuxième temps, si on peut avoir une réinsertion professionnelle dans les structures étatiques ou même para-étatiques, afin que nous puissions continuer parce que vous allez trouver toutes les compétences au niveau de la base et ces hommes et ces femmes sont aujourd'hui disposés à travailler pour le gouvernement tchadien.
Selon plusieurs sources auprès des autorités tchadiennes, les démarches sont en cours pour d'éventuelles prises en charge de ces axes employés. Olivier Monodi, N'Djamena, RFI.
Et y aura-t-il de nouvelles auditions dans l'enquête sur l'enlèvement et l'assassinat de Ghislaine Dupont et de Claude Verlon, les deux reporters de RFI tués par des djihadistes dans le nord du Mali en 2013? Il y a en tout cas de nouveaux éléments apportés par Olivier Dubois, lui-même ancien otage au Mali. Dans son livre « Prisonnier du désert », il raconte comment, juste avant sa libération, il a rencontré le chef djihadiste à l'origine du rapt de Ghislaine Dupont et Claude Verlon, Sedana Guitta. Celui-ci lui a affirmé que la mort de nos deux confrères serait la conséquence d'une poursuite aérienne engagée par l'armée française. Version donc légèrement différente de ce que Olivier Dubois a jusqu'alors confié aux autorités françaises. Écoutez ce qu'en pense Marie Dosé, avocate de l'association des amis de Ghislaine Dupont et Claude Verlon.
Ce témoignage est et demeure essentiel à la manifestation de la vérité. il y a une contradiction qui effectivement pose une difficulté. Ce qu'il dit au magistrat instructeur en ma présence, c'est qu'évidemment Sidanagita est le commanditaire, que Sidanagita lui a indiqué qu'il n'était pas celui qui avait ordonné la mort de Ghislaine Dupont et Claude Verlon. Il dit que un djihadiste parmi beaucoup d'autres à un moment donné évoquait cet hélicoptère, mais quand il l'évoque dans son audition de témoin, c'est plutôt pour l'écarter. Il n'indique absolument pas que Sidanagita lui aurait parlé de ça. Je constate quand même qu'il y a des contradictions par rapport à ce qu'il dit ensuite publiquement. Il est tout à fait possible en droit de solliciter une nouvelle édition pour recueillir les observations du témoin sur les contradictions qui existent entre son audition judiciaire et ce qui est avancé publiquement dans son livre ou dans ses interviews. Je verrai le moment venu ce que mes clients souhaitent que je fasse. Nous verrons bien.
Marie Dauzet, l'avocate de l'association des amis de Ghislaine Dupont et de Claude Verlon. On parle beaucoup en ce moment du Canada et de la Chine, mais un pays africain est lui aussi dans le collimateur de Donald Trump. C'est l'Afrique du Sud et c'est la récente loi sur les expropriations sans compensation qui a fait réagir le président américain. À Johannesburg, Claire Bargelès.
Les relations entre les deux pays étaient déjà tendues depuis le rapprochement de la nation arc-en-ciel avec le groupe des BRICS et sa défense de la cause palestinienne, notamment devant la Cour internationale de justice. Et c'est cette réforme foncière visant à réparer les torts de l'apartheid qui aura fait réagir Donald Trump ainsi qu'Elon Musk, natif d'Afrique du Sud, et qui dénonce des lois sur la propriété ouvertement racistes. Pour le porte-parole de la présidence sud-africaine, Vincent Magwenya, c'est une mauvaise interprétation qui est faite de ce nouveau texte.
La loi sur l'expropriation récemment adoptée n'est pas un outil de confiscation, mais un processus judiciaire constitutionnel qui permet d'assurer un accès aux terres de façon équitable et juste, comme l'enjoint la Constitution.
La présidence se dit ouverte au dialogue et espère pouvoir échanger avec l'administration Trump. Mais au Cap, lors du rassemblement consacré à l'industrie minière, le ministre Guédé-Mantaché s'est montré beaucoup moins diplomatique.
Un des désavantages d'être une économie en développement, c'est d'être victime d'intimidation de la part des économies développées. On doit nous traiter avec respect et il faut bien comprendre que nous sommes un État souverain, pas une province des États-Unis.
Le gouvernement rappelle que la plupart des financements américains reçus ne concernent que la lutte contre le VIH et contribuent à hauteur de 17% de ces programmes. Claire Bargelès, Le Cap, RFI.
Enfin, si vous êtes à Madagascar, vous l'avez sûrement remarqué, depuis 3 semaines, les prix des carburants ne sont plus fixés par les autorités. Mesure prise par le gouvernement mi-janvier, elle était réclamée par le Fonds monétaire international depuis plusieurs années. Et les prix devraient continuer à fluctuer puisque la prochaine étape pour Antananarivo, c'est de se diriger progressivement vers la suppression totale des subventions sur les produits pétroliers. Sarah Teto.
Après des années de statu quo, les autorités ont finalement opté pour des tarifs à la pompe réévalués chaque mois afin qu'ils reflètent l'évolution des prix du marché. Un mécanisme qui va permettre, selon Frédéric Lambert, chef de mission du FMI à Madagascar,
d'abord de réduire les risques pour le budget, puisqu'on plafonne en fait la subvention des prix des carburants versés par l'État. Deux, ça permet de renforcer l'espace budgétaire pour d'autres dépenses. Et puis, troisièmement, ajuster régulièrement les prix des carburants chaque mois, selon un mécanisme transparent et prévisible, ça permet de préparer une transition graduelle vers, cette fois-ci, la vérité des prix.
En d'autres termes, la suppression de toutes les subventions. Un engagement pris là aussi par les autorités malgaches et qui devrait être effectif en avril 2026.
Maintenant, l'ajustement qu'on a vu en janvier, c'est vraiment la première étape. Donc, on va suivre avec intérêt les annonces qui seront faites tout début de février, parce que ça permettra de confirmer justement cette mise en œuvre effective du mécanisme d'ajustement des prix.
Le représentant du FMI se dit toutefois confiant. Cet effort non négligeable du gouvernement devrait, sauf coup de théâtre, permettre le décaissement d'une nouvelle tranche de financement fin février, dont Madagascar a cruellement besoin. Sarah Teto, Antananarivo, RFI.
À Antananarivo, à Madagascar, il est maintenant 9h44 et vous êtes avec Andréane Mellard pour la suite d'RFI Matin.